monsieur. Bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Affiché la poubelle. 19h passé de 2 minutes à la pendule la plus rebelle des radios. Comme tous les jeudis et comme tous les jours de la semaine, il est l'heure du Canu Info de Radio Canu. L'équipe du jeudi, c'est toujours Delphine.
Et Laurent. Bonsoir à tous et toutes.
Donc voilà, on va faire un petit tour de l'actualité. Dans ce qui est prévu aujourd'hui, on va parler un petit peu d'écologie à l'épreuve du pouvoir. On va parler de TikTok, d'Internet, enfin de un peu de numérique à un moment.
Exactement.
Une petite rubrique sur l'inégalité. On parlera de grève et de salariés qui ne sont pas contents, mais qui... Bon, c'est pas grave, on verra, vous verrez ce que l'on en pense. Et puis, des petits anti-vaccins aussi. Voilà le programme de ce jour. Je commence par ces fameux écolos à l'épreuve du pouvoir, ou la découverte de la limite de la démocratie représentative. Peut-être devrions-nous appeler ça comme ça. Alors, vous avez peut-être pas fait attention. Alors, il va y avoir deux parties dans cette première information. La première, autour de la régulation de la publicité. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le secteur publicitaire a une régulation qui est assurée par les professionnels de la publicité eux-mêmes. Ils s'autogèrent, en fait, hein, vous imaginez. Alors, le problème, c'est que c'est pas très démocratique, tout ça. Et c'est, comme d'habitude, la prod est critique de nous autres qui n'apprécions que très moyennement l'idéologie portée par l'industrie publicitaire, puisqu'il y a une vraie idéologie derrière. Alors, dans les faits, on va revenir sur comment ça se passe. Depuis 2008, avant, il n'y avait qu'une seule institution qui gérait la publicité, gérée entièrement par les professionnels. Aujourd'hui, il y a trois institutions. La première, c'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. C'est celle qui était là avant 2008. Il y a le conseil paritaire de la publicité. Donc, le premier s'appelle l'ARPP. Le deuxième, le conseil paritaire de la publicité, c'est CPP. Et enfin, le conseil de l'éthique publicitaire, le CEP. Alors, l'ARPP, c'est l'organe principal, hein, celui qui est historique, qui est chargé de rédiger chaque année les règles dites déontologiques, ce qui nous fait bien rire, hein, bien évidemment, appelé aussi recommandation dans le terme officiel. Le CEP, lui, donc le conseil de l'éthique, composé à part égale d'experts et de professionnels de la publicité, a pour mission de juger de l'efficacité du dispositif d'autorégulation. Je ne sais pas à quoi il sert, mais voilà, c'est ça. Et donc, dans ces deux institutions, il n'y a que des professionnels du secteur. Il y a Renault, Coca-Cola, EDF qui ont leurs représentants dans ces deux instances, notamment les RPP. Voilà, il n'y a pas d'intervention citoyenne ni politique quelque part dans ces deux instances. Par contre, dans le Conseil de parité de la paritaire de la publicité, le CPP. Là, il y a moitié les professionnels et moitié des associations qui sont censées représenter les 60 millions de personnes qui habitent en France. Voilà, à peu près, ça se passe comme ça. Alors, ce conseil paritaire de la publicité, le seul truc un peu clean, émet des conseils, défend les intérêts des consommateurs et émet des conseils, des avis, qui sont censés servir de base à l'ARPP, qui, à partir de ça, va rédiger ces fameuses recommandations en disant ce qui est bien et ce qui est pas bien de faire. En fait, dans la réalité, c'est loin de fonctionner aussi bien que ça, notamment l'ARPP qui, quelque part, vire tout ce qui est lié à l'écologie, en fait, dans les revendications, dans les conseils de ce conseil paritaire de la publicité. Et ça énerve les membres de ce conseil, et du coup, il y en a qui se barrent. C'est le cas mercredi dernier, la semaine dernière, pas hier. La semaine dernière, c'est France Nature Environnement qui a dit « Bon, ça suffit, on se fout de notre gueule, je me barre ». Donc ils y étaient depuis le début, depuis 2008. Ils estiment que ça leur demande beaucoup de travail. Ils font des propositions, ils bossent beaucoup, notamment sur la surconsommation, pour essayer de limiter cette surconsommation. Et la RPP s'assoit sur toute leur, tout ce qu'ils disent. Donc il y a une vraie escroquerie, hein, c'est un faux truc citoyen que ce conseil paritaire de la publicité. Voilà. Alors en plus, même malgré tout ça, la RPP émet des règles qu'ils ne respectent même pas et ils ne poursuivent aucun des annonceurs qui ne respectent pas les règles déontologiques. Donc en plus, il y a un deuxième niveau d'hypocrisie qui est assez fort. Alors il y a bien sûr un mouvement anti-publicitaire qu'on connaît bien, notamment l'association de résistance à l'agression publicitaire. Ils sont membres d'ailleurs d'une structure, une sorte de lobby, dans le bon sens du terme, de groupe de pression qui s'appelle le SPIM. C'est le système publicitaire et influence des multinationales, qui regroupe donc la résistance, le RAP, la résistance à l'agression publicitaire, les Amis de la Terre, la Communication sans frontières et d'autres. Et eux, ils essayent de faire pression pour que le système change. Et c'est pas gagné du tout. Donc voilà. Alors, il y a déjà eu pas mal de rapports, de choses, notamment des choses qui sont réapparues à la Convention citoyenne pour le climat. Vous savez, le truc que Macron avait monté, dont il est censé suivre les revendications. Et il y a des revendications qui étaient issues de ces groupes anti-pub ou de défense de l'environnement qui concernaient la publicité. Donc voilà. Alors, l'idée de contrôler les conséquences de la publicité, ça agace forcément les publicitaires. Et ils vont très loin. Alors ils rédigent des rapports eux aussi, les publicitaires, et donc les RPP notamment. Et alors ils ont sorti un rapport dans lequel ils utilisent les mots de proposition ultra radicale, haine sociale, autoritarisme, idéologie de l'écologisme, bien-pensance, tout ça pour dire tout ce que nous proposent finalement ces gens, soit anti-pub, soit issus du Conseil paritaire de la publicité, c'est de la propagande contre le libéralisme quelque part, ce qui n'est pas totalement faux. Mais c'est bien le but de ces revendications, de pas de limiter la pub pour limiter la destruction de la planète. Bref, il y a toujours cette guerre des publicitaires qui sont les défenseurs de la destruction de la planète et les anti-pubs qui essayent de limiter tout ça, qui aimeraient faire disparaître tout ça, mais qui essayent au moins de limiter. Alors, il y a un projet de loi qui a été déposé le 10 juillet dernier par le groupe Écologie, Démocratie et Solidarité et qui devrait être examiné au mois d'octobre. Donc qui est issu de cette consultation citoyenne. Alors ça avait déjà été proposé une fois, cette loi, ça avait été retoqué. Mais là, comme ça vient de la Convention, ça a été validé par la Convention citoyenne, il y a un micro-espoir qu'il y ait des choses qui progressent. Alors l'espoir, il est microscopique, faut pas délirer, on va pas remettre en cause, malheureusement, le système publicitaire et tout ce qui va avec. Du côté des publicitaires, ils préparent la guerre aussi, la bataille. Alors ils ont prévu en février 2021 les états généraux de la publicité. Tout ça pour essayer de contrer tous ces projets de limitation de la publicité et aussi des anti-pubs. Et puis aujourd'hui, alors j'ai pas le résultat, mais c'est tenu la réunion de ce fameux conseil paritaire de la publicité pour essayer de remplacer les amis de France Nature Environnement qui se sont barrés. Je ne sais pas s'ils ont trouvé quelqu'un qui a envie de venir, une asso, une structure environnementale, qui a envie de participer à ce qui ressemble à une mascarade. Donc voilà, je n'ai pas le résultat, mais en tout cas, c'était aujourd'hui que c'est fait. Et puis, un petit exemple aujourd'hui aussi d'une image qui est sortie de l'aberration publicitaire. C'est Audi qui fait de la pub, alors qui a mis une Audi A3 dans un camion qui est ouvert, dans lequel la bâche, tout ça, est remplacé par un plexiglas. Et ils ont fait circuler ce camion avec cette Audi qui est visible donc de l'extérieur, dans les routes autour de Mulhouse et dans Mulhouse, en incitant ceux qui croisent le camion à prendre des photos pour faire de la pub, faire du buzz sur les réseaux sociaux. Alors, donc déjà, écologiquement, on a le high level, on fait de la pub pour une Audi A3, qui est un truc ultra destructeur de l'environnement, qui est posé sur un camion, je vous parle pas de la pollution, et en plus, les gens, la majorité des photos, et ça se voit dans ce qui a été publié, sur cette opération publicitaire, ont été prises par des gens qui étaient dans leur voiture. Donc ils ont pris des risques pour prendre des photos. Donc voilà, on a une pollution gratuite. A priori, c'est quand même pas mal illégal ce genre de truc, mais ils seront pas poursuivis, on l'a dit. Ça paraît un peu dangereux. Et voilà, voilà à quoi ressemble la publicité. Il n'y a pas que la publicité à la téloche ou des choses comme ça. Il y a aussi ce genre d'opération complètement destructrice de l'environnement et que on laisse passer comme ça, mine de rien. Donc ça, c'est pour l'aspect publicitaire. À Lyon, on sait qu'à Grenoble, le maire écolo, dans la précédente mandature, avait limité pas mal la publicité sur l'espace public. À Lyon, c'est pas officiellement dans le programme de Grégory Doucet et de ses amis, mais on espère, on sait qu'ils sont sensibles à cette publicité, à l'impact négatif de la publicité. On attend de voir maintenant les propositions qu'ils vont nous faire. C'est pas dans les gros thèmes portés par ce candidat et ses amis, mais on a quand même pas mal d'espoir. Et puis, on va rester dans l'écologie à l'épreuve du pouvoir et les rigolades depuis la semaine dernière avec, vous avez entendu, le personnage là qui représente, je crois, les Françaises et les Françaises, qu'on appelle le président de la République, monarque de la République française, qui a parlé du modèle Amish, du retour à la lampe à huile. De l'autre côté, on a eu des gens qui disaient que la 5G, c'était pour regarder du porno en haute définition dans les ascenseurs. Enfin, du coup, on a vu apparaître, à l'occasion de la 5G et d'autres événements, des réactions complètement disproportionnées, avant tout de la part des anti-écologistes. Hein, alors ça, c'est 99% des médias et des journalistes, et puis 99% des hommes et des femmes politiques. Et puis de l'autre côté, des écolos qui n'ont pas été beaucoup plus intelligents sur le porno en HD dans l'ascenseur. Merci, c'est le maire de.
En tout cas, c'est ce que tout le monde a retenu.
Oui, mais alors, du coup, mais c'est fait exprès. D'ailleurs, l'utilisation du modèle
comme argument, je trouve, parce que les gens ont retenu que c'était un truc qui servait à rien parce qu'on allait regarder du porno.
En HD.
Donc c'est intéressant, quoi.
Ouais, alors on a déjà, je crois, la vidéo en HD déjà sur les portables. Mais bon, bref, enfin, c'est encore mieux, j'imagine, la qualité. C'est important pour le porno.
Bah tiens, quand t'as un petit écran portable pour voir le zizi du monsieur, par exemple, avoir une super qualité, peut-être que c'est important, je ne sais pas.
Ouais. Et alors aujourd'hui, forcément, ils nous ont sorti un sondage. Mais qu'est-ce que pensent les Françaises et les Françaises des propos de ces écolos, de ces Khmers verts sur le Tour de France, la 5G, tout ça? Donc je suis allé voir un petit peu ce sondage réalisé par l'IFOP pour un truc qui s'appelle Lemon.fr. Alors déjà, c'est un sondage qui représente tous les Français. Donc ils ont interrogé 1020 personnes, 1020 personnes dans des petites communes et 1031 personnes dans des grosses communes. Ça fait en tout 2051 personnes. Donc nous avons donc 2051 sondés qui représentent plus de 60 personnes qui vivent ou traversent la France en y restant quelques temps. Ça fait quand même un poil pas crédible. Et alors, les résultats sont intéressants parce que forcément ce sondage est sans appel. Les Français aiment la 5G. Bizarrement, si on posait la question, d'ailleurs,
moi je préfère la 18G en fait.
Ouais, si on pose la question, et les sondeurs ne sont pas cons, parce qu'ils ne la posent jamais cette question aux personnes interrogées, vous pouvez nous expliquer technologiquement la différence entre la 5G et la 4G. Et là, il y a 99,99% des gens qui ferment leur gueule en disant non, moi j'y comprends rien, hein, je sais pas ce que c'est. Et techniquement, effectivement, les sondés donnent leur avis sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas. C'est un concept un peu à part qui est véhiculé par le journalisme moderne, d'accepter que des gens qui n'ont aucune connaissance dans un domaine en parlent, comme s'ils étaient les experts du moment. Ça nous fait bien rire. Alors bien évidemment, il y a quand même des gens qui se posent des questions sur la 5G, sur ces trucs, et qui sont capables de répondre en disant, voilà l'impact que ça a, voilà comment ça fonctionne, etc. C'était le cas quand même des militants anti-5G qui ont étudié un petit peu les choses. Pas beaucoup, parce que souvent, techniquement, dès qu'il faut parler un peu des ondes et de l'aspect scientifique, ils sont largués de chez largués, nos anti-5G. Donc voilà, on apprend ça. On apprend aussi que 59% de ces Français représentatifs de l'ensemble de la population trouve que le Tour de France est éco-responsable. Ouais, c'est intéressant. Hein, un pauvre cycliste avec 2000 camions qui suivent derrière, c'est éco-responsable. Bon, bref. On apprend aussi que 79% de ces mêmes Français représentatifs de toute la population trouvent que couper des arbres pour y mettre des décorations de Noël et dépenser 60 000 € pour ça, c'est une bonne idée. Voilà. Je vous rappelle, c'est le maire de Bordeaux qui a dit qu'il en avait marre de faire couper les arbres. Et contrairement à ce qu'ont dit les propagandistes de la politique ou du journalisme, il a jamais dit qu'il voulait pas de sapin de Noël. Il a dit qu'il voulait pas couper des arbres juste pour ça. Hein, il est pas prêt à mettre des décorations sur des arbres qui poussent dans la terre. C'est voilà. Donc ça a été un peu vite. Bon, bref. Alors le sondage nous fait bien marrer parce que l'analyse est encore plus intéressante. Alors je vais pas vous détailler. Mais ça démontre une chose, c'est que les sondés, à part véhiculer des fake news et ne pas gêner les journalistes quand ils reportent à nouveau ces fake news, ça sert pas à grand chose. Puisque le Tour de France, c'est un truc scientifique, rationaliste, ça pollue. Je veux dire que ça pollue pas, c'est un mensonge, bien évidemment. Hein, 2000 camions qui roulent, ça pollue. Difficile de dire le contraire. Je vous parle pas des bouteilles d'eau qui sont utilisées, des choses comme ça. Il y a eu plein d'études dessus, j'en ai parlé un peu la semaine dernière, c'est une catastrophe environnementale. Point. Voilà. Quant à dire que le Tour de France n'est pas sexiste, parce que j'en ai pas parlé aussi, c'est 59% des imbéciles interrogés, ont dit que le Tour de France n'était pas sexiste. C'est vrai ? Hein ? Vous avez regardé le Tour de France ? Elles sont où les femmes ? Vous en avez vu sur le podium ? Ah non, ils n'ont pas le droit de courir. Vous en
c'est
avez...
pas le même tour, Laurent.
Oui, oui, oui.
C'est
oui,
pas bien. Mixte, tu sais bien.
C'est, pas... ouais, c'est ça, justement. C'est très inégal. Vous en avez vu, vous, directeur de la course ? Directrice de la course ? Non, pas du tout. En fait, elles sont sous-représentées. Alors, je veux bien que le tour soit réservé aux hommes, le Tour de France. Mais pourquoi, dans les encadrants, il n'y a quasiment pas de femmes ? Pourquoi elles ne servent qu'à remettre, elles ne servaient qu'à remettre les fleurs. Voilà, donc ça reste un truc sexiste, quoi qu'on en dise. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Voilà, alors on pourrait revenir sur tout le reste. Ce qui est intéressant de voir dans tout ça, c'est que même dans les villes où les élus écolos ont gagné, les gens sont contre les idées des écolos. Et là, je me dis, mais ça démontre juste le truc habituel, c'est qu'en fait, dans le système de la démocratie représentative, les électeurs et les électrices ne votent pas pour des idées, mais votent pour la tronche de la personne qui se présente en face. Parce que n'importe quel imbécile sait les trucs qui détruisent l'environnement, les écolos les aiment pas. Donc si vous votez pour quelqu'un qui est écolo, il va dire que le Tour de France qui détruit l'environnement, il l'aime pas. Hein, ça paraît logique. Donc c'est découvrir qu'ils ont voté pour quelqu'un qui défend des idées écolo alors qu'il se présentait avec des idées écolo, c'est quand même assez drôle. Ça démontre juste que le système de la démocratie représentative n'a jamais vraiment fonctionné. Donc voilà, c'était juste pour parler un petit peu de tout ça. Lié au maire vert.
Au Khmer vert, parle correctement si tu veux. Alors, on va ouvrir une page qui n'a absolument rien à voir. Je vais revenir un petit peu sur TikTok, vous savez, cette application très usitée si vous avez des adolescentes en particulier. Beaucoup de...
C'est genré ?
Il y a beaucoup de filles sur TikTok qui font des vidéos. Il y a beaucoup de garçons aussi, mais c'est vrai que c'est un média qui est très utilisé par les filles. Ça fait peur un peu des fois aux parents parce qu'on ne sait pas bien ce qui s'y passe, qu'il y a eu pas mal d'enquêtes sur... aussi le contrôle. Et puis il y a aux États-Unis d'Amérique, M. Trump qui a peur aussi de TikTok, une application très importante, chinoise, qui pourrait donc malmener la démocratie des États-Unis d'Amérique, d'après M. Trump. Alors, toutes ces attaques, en fait, contre cette application, on n'a pas vraiment de preuves, hein, pour l'instant. Enfin, moi, je ne les ai pas trouvées sur la vérité de M. Trump, c'est-à-dire en quoi TikTok, pour l'instant, a participé à tronquer des élections, ou pourrait aujourd'hui participer à tronquer des élections. Et puis, je pourrais dire que, bah, à ce moment-là, il faudrait peut-être détruire Facebook, parce que on a un certain nombre de preuves sur ce qui se passe avec Facebook. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu curieux. Bon, on sait aussi que c'est un moyen d'attaquer la Chine économiquement, ouais. Au niveau diplomatique, d'attaquer un ennemi économique, mais un ennemi aussi de pensée politique. Hein. Ça va bien, Monsieur Trump. Donc, en tout cas, il y a donc cette application TikTok qui a une date butoir, c'est le 20 septembre pour trouver. Une nouvelle entité, puisque c'est la date par décret qu'a fixé M. Trump, qui estime que donc TikTok doit appartenir à la nation des États-Unis d'Amérique.
Enfin non, doit appartenir à un capitaliste américain.
Ouais, mais ça revient à ça, de la manière dont il l'a dit. C'est pour ça que je le présente comme ça. Mais effectivement, comme tu le dis, ça doit être donc une entreprise américaine. Des États-Unis d'Amérique. Tout à fait, hein. Quand je dis nation, c'est parce que M. Trump a ce nationalisme ancré, hein, quand ça l'arrange, dans son capitalisme. Alors, on avait eu une première offre d'un duo, qui rassemblait Walmart, les supermarchés, vous savez, ce groupe, cette multinationale, et puis une autre multinationale, Microsoft. Cette offre a été rejetée, et donc TikTok était toujours dans l'attente. Je vous rappelle que c'est ByteDance, hein, la maison mère de TikTok. Et donc on a une nouvelle offre qui est apparue, une offre faite et confirmée le lundi 14 septembre, une offre du groupe des États-Unis d'Amérique, hein, donc californien en plus, un groupe bien de chez M. Trump, un groupe qui s'appelle donc Oracle. Alors ce qu'on en sait pour l'instant, c'est pas grand chose, c'est qu'effectivement Oracle a confirmé être intéressé par alors je vais le dire tout de suite, en fait il s'agirait pas d'un rachat pour l'instant pour ce qu'on en sait, mais plutôt d'une espèce de partenariat, c'est-à-dire que c'est pas racheter TikTok, la branche, hein, des activités aux États-Unis d'Amérique, mais plutôt une espèce de partenariat. Alors on attend un petit peu des précisions, ça serait plutôt une espèce de truc technologique, un partenariat privilégié comme on dit dans le monde capitaliste, hein. C'est toujours un petit peu curieux ces appellations. Bon, en tout cas, il y a cette date du 20 septembre, hein, c'est dimanche, donc il va falloir savoir si cette proposition d'Oracle peut fonctionner. Juste pour rappeler, quand même, TikTok, hein, quand même, il faut poser un petit peu cette chose. C'est 2 milliards de téléchargements. C'est quand même pas rien. Aux États-Unis, 100 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices. Donc c'est quand même...
Oui, c'est presque un tiers de la population américaine.
C'est énorme, hein, quand même, hein, voilà. Et puis c'est surtout une application qui est montée en puissance très très vite aux États-Unis d'Amérique, et c'est peut-être aussi ce qui déplaît un petit peu. En tout cas, si jamais le 20 septembre il n'y a pas une solution avec Oracle, ça veut dire que TikTok s'arrête aux États-Unis d'Amérique. C'est ce qu'a décidé le gouvernement des États-Unis d'Amérique.
C'est drôle, hein, il se comporte comme un État totalitaire.
Bon, pourquoi Oracle? Oracle, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un machin qui propose ouvrir les guillemets, des solutions aux entreprises.
Ouais.
Fermer les guillemets, c'est-à-dire effectivement des bases de données, du cloud. Enfin, c'est plutôt un service aux entreprises dans l'informatique. Donc on se demande pourquoi Oracle ? Parce que peut-être effectivement que Oracle a envie de diversifier ses activités, mais Oracle pour l'instant n'a aucune activité dans l'industrie du réseau social, du réseau commercial. Donc ça peut être une nouveauté. Bon, une fois qu'on a dit ça, peut-être qu'on pourrait se souvenir un petit peu des idées du cofondateur, hein, Larry Ellison, parce que c'est un pro-Trump, ce monsieur. Donc ça explique aussi peut-être pourquoi Oracle va sur ce rachat partenariat de TikTok. Ce pro-Trump a fait une levée de fonds, hein, quand même, pour Trump, et ça va amener une partie des salariés de Oracle à se mettre très très en colère et à protester assez énergiquement dans une pétition à l'encontre de Larry Ellison. Ça n'avait pas du tout plu à une partie, hein, qui s'était dit, mais là, notre entreprise, on la veut pas pro-Trump, donc ferme ta bouche, ou en tout cas fais ce que tu as, mais quand même ça nous embête que tu puisses mêler Oracle. Donc Oracle pourrait intervenir dans cette solution de reprise d'une application qui marche très très fort aux États-Unis d'Amérique face à la Chine, Pour l'instant, on ne sait pas bien ce qui va se passer. On attend parce que ça devrait tomber là. Hein, je vous disais, hein, le 20 septembre, c'est dimanche. Donc, il y a une date butoir qui pourrait sanctionner très, très fort une application et donc les activités de ByteDance aux États-Unis d'Amérique. Mais en tout cas, ça ne va pas stopper TikTok ailleurs dans le monde, ça c'est bien certain. Voilà un petit peu pour ce qu'il en était de ce qu'on en sait aujourd'hui de TikTok. Moi, je voudrais vous donner des nouvelles de deux personnages. Ancien secrétaire d'État en relation avec le Parlement entre 2014-2016, secrétaire d'État chargé du développement et de la francophonie entre 2016 et 2017. Il s'agit de Jean-Marie Le Guen, vous vous souvenez? Non, pas trop, mais un petit peu quand même. Ah si, toi, oui, mais bon, peut-être qu'on l'a oublié quand même un peu. Hein. Alors, je vous donne des nouvelles, puisqu'il s'est trouvé un nouveau job. Il va rentrer au conseil d'administration de Huawei France. Vous savez, cette entreprise qui est aussi attaquée par les États-Unis d'Amérique et par leur président, M. Trump.
Oui, alors du coup, c'est ça.
Entreprise chinoise.
Il va faire du lobbying pour Huawei. C'est le but, hein, quand ils embauchent des hommes politiques comme ça, qui ont un carnet d'adresse. Alors, quand les multinationales font ça, il n'y a pas que Huawei hein, qui fait ça, il y en a plein, même des multinationales françaises. Le but, c'est de faire du lobbying auprès des politiques.
Alors pour lui, évidemment, on y rentre. En disant qu'évidemment, c'est une multinationale très belle, très chouette, et que toutes les critiques sont injustifiées, injustes et infondées. Ce qui est intéressant, c'est que M. Le Guen a certainement, avec son expérience, tout un tas de cordes à son arc, mais enfin, on rappellera quand même qu'à la base, il est médecin. Hein, juste, voilà, faut remettre le truc. Et puis, donc voilà, un peu des nouvelles.
Il a un carnet d'adresse.
Mais oui, mais bon. D'autres personnages, ancien Premier ministre.
Oui, Édouard Philippe.
Voilà, vous savez, maire du Havre, eh ben, il a lui aussi une autre activité, puisqu'il rentre au conseil d'administration d'Atos, hein, une société informatique française. Celle-ci.
C'est le copinage, hein, ça s'appelle. Avec
bon, qu'il est administrateur indépendant, hein, tout ça, mais c'est intéressant quand même aussi, comme certains et certaines arrivent plus facilement à se recaser que d'autres.
Oui, parce que, bizarrement, est-ce que toi, on t'a proposé de rentrer au conseil d'administration d'Atos?
Non, mais en même temps, j'ai peut-être pas demandé. Parce que peut-être qu'en ma qualité d'animatrice Radio Canu, peut-être qu'on aurait pu, tu vois, se dire, ouais, elle pourrait faire de la propagande pour nous dans son micro bleu. Magnifique. Bon, enfin voilà, c'était juste pour vous dire qu'il y a de l'activité hein, chez nos hommes politiques qui ne se laissent pas aller. En particulier dans ces entreprises hein, du numérique, de l'informatique, ça embauche. Et puis je voudrais vous parler de ce qui se passe en Biélorussie. Donc vous savez qu'il y a des manifestations contre un homme qui s'est élu lui-même, on va dire comme ça.
Ah, comme d'habitude, un petit dictateur, tout ça, qui fait des fausses élections.
Donc, ouais. Monsieur Loukachenko, qui est quand même là depuis longtemps, hein, depuis 1994, donc c'est pour ça qu'il y en a un paquet qui aimerait bien se débarrasser de ce monsieur, et puis surtout des élections pas belles, critiquées et critiquables, et on apprend que... Alors, vous savez qu'il y a une répression féroce contre les opposants et contre les manifestants, c'est-à-dire qu'il y en a, c'est même pas des opposants et des opposantes politiques, des militants. Là, il y a des gens qui descendent dans la rue pour la première fois de leur vie, des gens de tout âge. Il y a effectivement des anciens militants, militantes qui aujourd'hui ont un certain... paquet d'années, de décennies de lutte, mais pour d'autres plus jeunes, c'est la première fois, mais il y a une volonté quand même d'aller vers une démocratie, vers des droits humains réels, et il y a donc des tas de gens qui descendent dans la rue, en particulier dans la capitale. Et on a donc une répression féroce, hein, quand on voit les vidéos, voilà, on a des opposants et des opposantes qui se font arrêter, embarquer. Heureusement, certaines hein, ont été libérées, mais voilà. Et puis à côté de ça, on a quand même aussi une réaction qui est aussi assez forte des autorités en Biélorussie, qui est de couper Internet, de couper les réseaux mobiles. Donc il y a eu des demandes auprès des opérateurs de couper ces systèmes. Pourquoi ? Alors il y a plusieurs raisons, c'est évidemment de bloquer toute organisation dans les manifestations. Et puis aussi parce que comme la presse, les médias locaux, nationaux, ont bien du mal à exister, parce que soit ils sont sous la mainmise des autorités biélorusses, soit alors ils sont eux aussi des soucis avec des arrestations et de la répression, donc il y a un problème. Donc pour faire savoir ce qui se passe, il y a beaucoup de gens qui sont mis à raconter sur les réseaux sociaux, et puis sur des blogs et sur des tas de moyens, ce qui se passe dans les manifestations. conversation, que ça soit simplement la joie d'être tous et toutes ensemble, c'est ça qui est raconté, le fait de montrer qu'il y a du monde et de descendre dans la rue encore plus nombreux et nombreuses, et puis l'idée aussi de montrer la violence, hein, et la répression. Mais d'abord, les premières vidéos, elles étaient là pour montrer qu'il y a du monde dans la rue, parce que la méthode de monsieur Loukachenko, c'est de cacher ce qui peut se passer dans la rue. C'est-à-dire que dans d'autres villes où les manifestations étaient plus petites, mais elles existaient, on voulait cacher ce qui se passait dans la capitale, et inversement. Donc il y avait des tas de gens qui utilisaient les réseaux internet et mobiles pour diffuser de l'information, et tout ça, c'est coupé. Donc, on a des opérateurs qui ont fait savoir qu'ils étaient obligés de le faire. Et puis, on a eu dans cette affaire-là une entreprise des États-Unis d'Amérique qui s'est fait taper un peu sur les doigts. Alors, ça s'appelle Sandvine, je ne sais pas si vous connaissez. Elle propose des solutions aux autorités pour permettre
contrôle de l'Internet. Des réseaux.
Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé qu'on a Bloomberg qui annonce le 11 septembre que Sandvine participe à vendre donc des produits à l'État et au gouvernement en Biélorussie. On apprend dans cette enquête publiée par Bloomberg que son patron ne considère pas que c'est des droits humains d'avoir un accès à Internet et que finalement il n'est pas là pour défendre les droits humains en Biélorussie, qui s'en moquent complètement, et qu'ils pensent que chaque pays, et quand il dit pays, il faut bien entendre chaque autorité de pays, peut faire ce qu'il veut et décider ce qui est autorisé ou pas. Ces propos donc étaient publiés dans Bloomberg, et d'un seul coup, le 15 septembre, Sandvine fait marche arrière et annule l'annulation du contrat avec le gouvernement biélorusse. Poum, 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 comme quoi finalement, une belle petite enquête journalistique, ça peut quand même un peu changer la donne. Et l'entreprise en plus fait tellement marche arrière qu'elle estime que, en fait, ça fait partie des droits humains d'avoir accès à Internet et au contenu en ligne. Alors là, on sent bien quand même qu'il y a eu quelque chose qui a été très très efficace. Par contre, ce qui Sandvine explique, c'est que s'il y a plus de mise à jour des logiciels, des supports techniques, des équipements, puisque le contrat est stoppé, il y a quand même des équipements qui vont rester fonctionnels. Donc l'État et le gouvernement biélorusse va pouvoir continuer à utiliser ces produits-là pour faire de la répression contre ces militants, ces opposants qui sont aujourd'hui dans la rue. Donc voilà, ces manifestants, on leur souhaite bien du courage à elles et à eux, parce qu'on a quand même un État très organisé qui contrôle ce qui se passe dans la rue, mais qui se contrôle aussi ce qui se passe sur Internet. Voilà, donc quand des entreprises commencent à participer à ces efforts de répression, c'est évidemment un problème. Et quand des médias dénoncent ces entreprises, c'est plutôt salutaire.
Alors on va passer dans une rubrique sur l'inégalité et les inégalités. On va commencer à parler en Angleterre et en parler de la BBC, vous savez, l'énorme réseau public de médias anglais. Donc là, en ce moment, il y a eu pas mal de remous ces dernières années sur les inégalités au sein de la BBC. Et il y a le résultat d'une enquête qui devrait paraître d'ici quelques jours sur cet audiovisuel britannique pour donner un petit peu ce qui se passe. Mais là, on a quelque chose qui est paru dans la presse britannique avant-hier, des chiffres qui témoignent d'un rééquilibrage des salaires entre des salariés hommes et femmes, ceux qui sont le mieux payés. Donc, comme ça, de premier abord, on se dit la BBC a fait quand même de gros progrès sur les disparités salariales depuis le 2017. On va voir que c'est quand même assez impressionnant. Donc, ce rapport, à l'époque, en 2017, un rapport a souligné qu'il y avait une différence de rémunération de 9,3% entre les présentatrices et les présentateurs. Donc, on parle dans le haut du panier, hein, ceux qui sont à l'antenne et qui touchent des gros salaires. 9,3% d'écart. En août dernier, l'ancien directeur Lord Hall est parti et a dit que lui, il était arrivé à pas mal faire changer les choses. Et on a appris donc par le Times que 700 employés avaient obtenu une augmentation de salaire ces derniers mois. Et les listes des rémunérations les plus élevées ont été publiées avant-hier. Et effectivement, on découvre que pour les plus hauts salaires, donc aux alentours de 162 000 euros, je crois que c'est par an. C'est, bon, mais c'est déjà beaucoup. Hein. On n'a pas ça, nous, ici. Se sont réduits, donc ces écarts sont réduits. Alors aujourd'hui, l'écart, c'est 45 pour les femmes, 55 pour les hommes, hein, si on raisonne en sur 100. L'an dernier, c'était 40 pour les femmes, 60 pour les hommes. Et en 2017, 25% pour les femmes, 75% pour les hommes d'écart salarial. Donc là, on a un net progrès. Hein, on est parti du... Les femmes sont payées un quart du salaire. Là, maintenant, elles sont presque à égalité. Mais tout est dans le presque. Alors bien sûr, ça concerne les hauts salaires. Ça ne parle pas du commun des mortels. Ça ne parle pas non plus de BBC Production, par exemple, qui est associée à la BBC, mais dans lequel il n'y a pas cette transparence, il n'y a pas ces pressions pour une égalité salariale. Alors, la direction, elle va servir de ces chiffres pour faire de la propagande, pour dire, regardez, on a fait des progrès, mais en fait, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, où il reste plein de choses cachées. Vous me direz, j'ai pas l'impression qu'à France Télévisions, donc l'équivalent français, on ait mis ces problématiques d'inégalité salariale en avant, et que la transparence soit présente. Donc, il faut... On va critiquer la BBC, qui fait déjà des efforts, mais ici, ça a l'air moins bien parti. Alors, toujours dans l'inégalité, l'info du jour, alors vous l'avez sûrement entendu, ça a été révélé par Oxfam, qui a additionné les petits chiffres et a trouvé que 5,3 milliards de doses de vaccins avaient été préachetées par les pays riches. Donc les pays riches, hein, c'est Royaume-Uni, États-Unis, Union européenne, Japon, Australie, Hong Kong, Suisse et Israël. 5,3 milliards de doses chez les 5 fabricants, chez 5 des fabricants qui sont en phase 3, ça représente 13% de la population mondiale et c'est plus de la moitié des doses qui peuvent être fabriquées. Donc là, Oxfam découvre que l'accès au vaccin sera super inégal. On remercie Oxfam, je ne vais pas me moquer d'eux, mais bon, il faut qu'ils prennent conscience que l'accès à la santé globalement est inégal entre les pays et même à l'intérieur des pays où, quoi qu'il arrive, vaut mieux être riche que pauvre, que ce soit pour un pays ou pour une personne dans une population. Il y a très peu de pays qui ont un système de santé comme celui en France et dans d'autres pays d'Europe qui permet à des gens qui sont pas très riches et qui sont pauvres même d'être soignés. Hein. Donc voilà. Alors cette course, on s'y attendait, ça avait déjà été annoncé. Là, ils ont analysé les précommandes hein, qui sont parues dans la presse, parce qu'il y a eu un peu de transparence quand même là-dessus. Alors le record, c'est bien sûr les Américains qui comptent se faire livrer des doses dès le mois d'octobre. Alors c'est Trump dans sa campagne électorale, il annonce ça, il annoncerait 200 000 doses dès octobre. C'est pas sûr, et les autorités sanitaires américaines ne sont pas d'accord avec d'aller si vite que ça. Donc voilà, c'est un peu de la propagande de la part de Trump, mais il y a quand même cette idée et ce fait que les pays riches vont phagocyter les vaccins. Ça paraît logique. Alors c'est 5 des 9 vaccins qui sont actuellement en phase 3, vous savez c'est la dernière phase avant la commercialisation, dont on connaît l'état d'avancée des essais et surtout les contrats hein, qui ont été rendus publics. Et donc il y a AstraZeneca, il y a Gamaleya donc qui est russe, il y a Moderna qui est américaine, il y a Pfizer qui est américaine et il y a Sinovac qui est chinois. C'est les 5 parmi les 9 qui sont officiellement en phase 3. Donc voilà. Alors d'après Oxfam, donc voilà, 61% de la population mondiale ne devrait pas avoir de vaccin avant 2022. On s'y attendait un peu. Alors l'idée, c'est, alors il y a, là je parle des gros pays riches. Il y a d'autres pays qui essayent de tirer leur épingle du jeu aussi, notamment l'Inde avec la Chine et tout ça, qui sont pas dans les pays les plus riches, mais qui eux aussi risquent d'avoir accès au vaccin. D'abord l'Inde a un fabricant extrêmement important de vaccins. Alors, mais est-ce que, parce que là, c'est pas tout de dire, voilà, ça va se passer comme ça, on sait, c'est du business, c'est des entreprises privées, elles vendent et les gens achètent, et ceux qui n'ont pas d'argent, ils n'achètent pas. C'est la triste loi du libéralisme et du capitalisme. Est-ce qu'il y a une alternative? Alors, il y a une petite alternative qui s'appelle COVAX, qui est une sorte de coopérative de mutualisation internationale pour acheter des vaccins, notamment sur ce Covid-là. Malheureusement, COVAX est mal financé, et notamment les Américains, les USA, pas, les États-Unis d'Amérique refusent de mettre de l'argent dedans. Donc c'est assez triste. Donc voilà, on a appris ce chiffre aujourd'hui qu'on avait déjà imaginé avec ce qui avait été dit cet été autour de la préemption, quelque part, capitaliste des pays riches. Ça se confirme. Et l'alternative mutualiste, pour l'instant, fonctionnera très très peu ou très très mal. Alors, toujours dans les inégalités, cette fois, on fait un tour dans la justice d'ici, et on a appris aujourd'hui qu'une femme transgenre, qui cherchait à être reconnue comme mère de sa propre fille, a été déboutée. Donc voilà, ça a fait réagir les gens qui sont proches d'elle, ses avocats, notamment son avocate qui a trouvé la décision scandaleuse. Alors, pour expliquer un peu les choses, hein, c'est une personne qui a été officiellement reconnue comme femme dans son état civil, et c'était un homme avant. Maintenant, elle est reconnue civilement comme étant une femme, ce qu'elle voulait, c'est déjà bien. Malheureusement, l'État s'arrête là. Elle a eu une fille naturelle avec son épouse en 2014, et elle réclame d'être reconnue comme mère par l'État français. Et c'est pour ça qu'elle est en justice. Alors, la justice ne veut la reconnaître que comme père. Il y a une incohérence énorme dans cette imbécilité judiciaire, puisqu'elle est reconnue comme femme dans son état civil, et la justice veut juste la reconnaître comme étant le père de la jeune fille. Donc c'est un vrai imbroglio qui a failli se résoudre en 2018 quand la cour d'appel de Montpellier avait statué en disant c'est pas la mère, c'est pas le père, c'est le nouveau statut là, c'est le parent biologique effectivement de la petite fille, et ça c'était plutôt bien et tout le monde était content, sauf qu'il y a eu appel et aujourd'hui donc la cour de cassation, donc le dernier étape, la dernière étape de la justice a cassé ce rendu et donc ne veut pas reconnaître cette femme comme la mère de la petite fille. La Cour de cassation sort une espèce d'excuse avec des termes de biologie, que cette femme trans ne peut être que le père. Ils sont complètement à la rue, on marche complètement sur la tête hein, dans cette justice qui est encore très sexiste, hein, du coup, ou très vieille école, très...
Tu veux dire le mot conservatrice ?
Conservatrice, ouais, tout à fait. Ringarde au possible, quoi. Enfin, même la science a évolué beaucoup, et donc la société devrait suivre ces évolutions, mais là, eux, ils sont complètement largués. C'est super triste, hein, quand même, pour cette dame et pour sa petite fille. Enfin voilà, il n'y a plus d'alternative. Il leur reste, ce qu'ils vont faire, aller devant la Cour européenne des droits de l'homme qui peut obliger la France à reconnaître cette femme comme étant la mère, parce que c'est quand même c'est biologiquement, ça vient bien de cette personne quand même. Enfin voilà, c'est un truc de fou, quoi. Voilà, la France est encore un pays réactionnaire. Et puis pour terminer dans cette petite rubrique sur les inégalités, un truc que j'avais pas percuté, j'ai lu des trucs sur la CGT aujourd'hui, parce qu'il y avait des manifestations qui ont a priori peu mobilisé. Il faut dire que je sais pas si la CGT a fait du rappel, mais moi syndicalement, j'ai pas vu d'appel de la CGT dans mon domaine.
Pourtant, juste pour dire, c'était plutôt une bonne idée à la base. C'est rappeler qu'il faut sauver nos retraites, hein, parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Sauver aussi nos droits au chômage, à l'assurance au chômage. Sauver un certain nombre de choses. Et que, bon, en se mobilisant pas, il est très clair que nous allons perdre beaucoup.
Tout à fait. En tout cas, bon, voilà, ils ont mal communiqué quelque part, hein, j'imagine, ou leurs militants.
Ouais, puis
ils croyaient peut-être pas tous d'ailleurs.
Enfin bon, quand t'as des médias qui communiquent qu'aujourd'hui, en même temps, ça les aide pas beaucoup non plus, quoi. Quand tu fais un article le matin même pour une manifestation.
Dans ta boîte, quand sur le panneau syndical, il y a pas d'infos, c'est un peu inquiétant.
Je suis d'accord. Mais
Donc, à l'occasion de cette journée de mobilisation qui a existé, hein, quand même, il y a des gens qui sont mobilisés, et tant mieux, c'est très très bien. J'ai lu des trucs sur la CGT et je suis retombé sur quelque chose qu'ils avaient dit au sujet du Covid et de la procédure simplifiée, soi-disant que le gouvernement aurait voté un décret, enfin le décret a été voté le 30 juin dernier sur la reconnaissance du Covid comme une maladie professionnelle pour certains types de personnel. Et moi sur le coup je me suis dit c'est une bonne idée, c'est bien, les personnels de santé, ceux qui étaient dans les magasins et qui ont morflé au début de la pandémie là, en mars et en avril, c'est bien de le reconnaître comme maladie professionnelle. Sauf que, justement, la CGT explique qu'en fait, c'est une énorme arnaque. Donc, ce décret qui a finalement été publié mardi est une énorme usine à gaz, déjà, un truc complexe, exprès, hein, voilà. ça va permettre à très peu de gens de reconnaître, de faire reconnaître cette maladie comme une maladie professionnelle. Car il faut, pour que ça soit reconnu de manière automatique, que les personnes aient eu une affection respiratoire aiguë avec placement sous oxygénothérapie, assistance ventilatoire, ou soient mortes. Parce que si vous avez été normalement malade, couché, de la température, perte du goût, tous les trucs, ou problèmes respiratoires, mais pas placement en hôpital et en réanimation, eh ben vous serez pas reconnu en maladie professionnelle. C'est quand même un truc assez incroyablement discriminant. Hein, si vous avez failli mourir ou mourir, c'est reconnu, sinon, non. Voilà. C'est un truc assez incroyable que je remercie donc la CGT d'avoir essayé de communiquer dessus. C'est pas passé dans les grands médias. C'est un petit peu dommage, cette discrimination. Les gens qui ont été malades à cette époque-là, ils l'ont été à travers leur travail, majoritairement, parce que pendant que les gens étaient confinés, il y en a qui ont continué à travailler, soit pour soigner, soit pour nourrir, soit pour faire des choses fondamentales pour la société. Celles et ceux qui ont été malades, ça paraîtrait logique que ce soit reconnu comme une maladie professionnelle, puisqu'ils ont été utiles à tous et à toutes. A priori, le gouvernement a décidé que non.
Alors, on va parler d'une petite lutte qui, toi, t'a fait réagir, mais moi, je vais parler en tant que syndicaliste. Parce que là, je pense qu'on peut quand même soutenir les salariés, même si on n'aime pas ce que l'entreprise produit. Hier, donc à Messimi, devant le siège de Boiron, les salariés se sont réunis, ont manifesté contre le plan social qui a été annoncé en mars dernier. Vous savez que normalement, si tout se passe bien, à partir du 1er janvier 2021...
L'eau sucrée ne sera plus remboursée.
Voilà, la Mégie, c'est fini. La Sécu, c'est plus elle qui va prendre en charge.
On n'est pas dans Harry Potter, quoi.
Voilà, c'est fini.
C'est de la science.
Évidemment, ça avait fait réagir beaucoup depuis. Boiron a lancé une grande offensive contre les gens comme nous.
Voilà, tous les rationalistes, les politiques qui se battaient aussi pour le déremboursement, dans plein de pays, c'est pas remboursé, dans plein de pays, c'est juste un complément alimentaire.
Donc, il y a eu aussi les salariés qu'on a envoyés, quand même, aussi défendre les bienfaits de l'homéopathie. Il faut savoir que Boiron, ça a toujours été une entreprise fermée, quand même. On ne sait pas bien ce qui s'y passe, parce qu'il y a l'air d'avoir une bonne entente, parce qu'il y a quand même l'idée aussi qu'il faut défendre cette homéopathie tellement attaquée par les gens comme nous. Donc, manifestation, et là où moi, en tant que syndicaliste, je souhaite défendre malgré tout ces salariés, c'est que le déremboursement de l'homéopathie n'a pas encore eu lieu, et semble être surtout un prétexte à licencier assez massivement en France. On parlait de quoi? D'un quart des effectifs au mois de mars, donc c'est un peu beaucoup quand même. Alors, le déremboursement n'ayant encore pas eu lieu, on se demande bien comment Boiron justifie effectivement ces licenciements. On dit qu'ils prennent les mesures parce que sinon ils risquent de couler la boîte. Alors, quand on regarde un petit peu la boîte, on s'aperçoit qu'elle a quand même 215 millions de trésorerie d'euros. Donc c'est pas mal, c'est-à-dire qu'il y a quand même plein de boîtes qui aimeraient bien avoir autant d'argent en trésorerie, c'est-à-dire dans des liquidités quand même, qui permettent à une entreprise de vivre. Alors effectivement, on a une baisse peut-être un peu des ventes en France. Par contre, c'est une multinationale, Boiron, tous les anti-vaccins et tout, rappelons-le, le Big Pharma, c'est aussi Boiron, sauf qu'ils font pas du pharmaceutique, ils font de l'eau sucrée. Et que donc, par là même, on a une multinationale qui vend très fortement ses produits magiques à l'international et un peu moins en France. Mais c'est une entreprise qui marche extrêmement bien, parce que c'est une multinationale. Donc on veut se débarrasser globalement de la filiale à la française qui marche moins bien, donc de se débarrasser des salariés français pour pouvoir continuer à faire des sous à l'international. Alors, je vais mettre donc une trésorerie à 215 millions, l'entreprise va bien. Elle est rentable, cette entreprise, cette multinationale, il faut le savoir. Et puis ici, surtout, les syndicalistes mettent en avant un autre chiffre. Les 17 millions de dividendes distribués.
Ah bah ouais, mais c'est pas pareil, il faut que les riches soient plus riches.
C'est beaucoup, 17 millions de dividendes dans une année de crise et de Covid.
Oui, dans une année compliquée, c'est beaucoup.
Où on appelle à la responsabilité des dirigeants d'entreprise, ça choque.
Voilà, et, et bizarrement, ils n'ont pas proposé d'aide pour fabriquer des trucs, un vaccin ou un truc. Ah bah non, mais ils ne savent pas faire, c'est de la science, excuse-moi.
Écoute, toujours est-il que ce qui choque aussi les syndicats de Boiron, c'est qu'il y a un problème de négociation. Alors, bon, il paraît-il que quand même il y a des négociations quand on écoute les dirigeants de Boiron. A priori, du côté des syndicats, on trouve qu'il y a fait peut-être des réunions, mais elles servent à rien. Hein. Il suffit pas de les cumuler pour pouvoir après se mettre les mains sur les hanches et dire bah non, quoi, on négocie. Oui, enfin bon, si ça parle que dans un sens, ça ne sert à rien. La problématique, elle est que le reclassement, il va pas se faire. Chez Boiron, a priori, il y a pas mal de salariés qui sont plus forcément jeunes. Et puis surtout, surtout, ce que ça démontre aussi dans cette charmante multinationale, c'est qu'on a aussi du salarié qui est pas forcément de haute qualification. Donc, c'est-à-dire des salaires bas, des gens qui vont avoir plus de difficultés à trouver un emploi, surtout quand ça fait des années que ces gens travaillent au sein de la multinationale. Donc, on va se retrouver avec des gens sans reclassement, à la rue, et avec des difficultés pour trouver un nouvel emploi, de fait de ne pas avoir de formation importante pour retrouver quelque chose d'intéressant. Donc là, on a une difficulté. Et puis, le peu de reclassement qui est aujourd'hui proposé, ça va être dans du métier plutôt commerciaux, sur lequel... Les gens qui sont mis à la rue, puisqu'il y a un site de production qui est fermé quand même, vont avoir peu de compétences là tout de suite maintenant, se sentent un petit peu perdus, hein, surtout quand ça fait 20 ans que tu fais, t'es sur une chaîne à la production, très sincèrement, tu retrouves commercial d'un coup d'un seul, à imaginer, t'as beau être hyper volontaire à l'intérieur de toi, hein, dans ton petit cerveau, te dire allez, on va y aller, on va y aller, ça devient quand même compliqué. Donc il y a cette difficulté aujourd'hui qui est que, ben, quand même, on interne, on trouve que Boiron se débarrasse un peu facilement quand même de ses salariés, qu'il y aurait pu peut-être aussi avoir du volontariat pour du départ en retraite anticipée, parce qu'il y a des gens qui sont quand même pas tout jeunes. Donc on aurait pu peut-être travailler un peu mieux les choses, et que là, on a un peu l'impression que depuis cette annonce au mois de mars, il se passe rien, et que globalement, Boiron pousse dehors des gens, alors que on a une multinationale rentable qui fait des bénéfices, qui a une trésorerie et qui distribue du dividende. Et ben là, on est dans un scandale. Et on aimerait bien savoir ce qu'en pensent aujourd'hui nos élus qui sont choqués de voir dans une usine de pneus, parce que c'est japonais, que c'est pas normal et qu'on va monter au créneau et que c'est scandaleux. Ben là, j'aimerais bien aussi qu'il y ait des réactions pour dire si c'est effectivement scandaleux ou foutez de notre gueule, puisque de toute façon, dans les autres pays, votre magie, elle est pas remboursée et vous en vendez des kilos, des litres. Donc, arrêtez de nous prendre pour des andouilles.
Alors, on va rester dans la magie, dans les trucs un peu comme ça, là, les arnaques, quelque part. Et tu vas nous parler d'un salon qui t'a... Tu m'as dit des trucs tout à l'heure, j'ai beaucoup ri.
Ouais, surtout que je t'en ai pas dit la moitié de ce que je pourrais dire et que je vais même pas faire ce soir. Alors attendez, je bois un petit coup, si vous voulez bien me permettre. Hein, donc, tu connais un peu les salons du bien-être, toi ?
Ah non, alors je connaissais pas ton salon du bien-être, là. C'est à Lyon, du coup.
Oui, alors c'est même au double mixte.
Merde, alors attends.
Chez l'université.
La fac de sciences, je veux dire.
Mais tu sais, le double mixte, ça n'a plus rien à voir avec la fac de sciences.
Mais c'est au cœur de la fac de sciences, quand même.
Alors, donc, avant, ça s'appelait Salon Iris, maintenant, ça s'appelle Salon du bien-être bio et thérapie. Alors, bio, je ne sais pas bien ce que ça vient faire là, parce que moi, j'ai bien regardé, étrangement.
Mais la magie, elle peut être bio.
Ouais, mais il faut arrêter de mettre le bio à toutes les sauces. Hein, voilà. Alors, c'est pas cher, hein, c'est entrée 2 euros. Il y a 190 stands, un truc comme ça. En tout cas, c'est ce qu'il y a sur le tract. Il y a des conférences, des concerts même. Hein. C'est magnifique. T'as même une tombola.
Ouais, bon. Pour gagner quoi ? Des pierres qui guérissent ou des trucs comme
alors,
ça là ?
Il y a des. Alors, c'est un salon.
Rappelons qu'il y a les pierres qui guérissent. J'aime bien les pierres qui guérissent.
Il y a du cristal.
Putain, j'adore.
Il y a une conférence sur ce que tu me demandes. Hein, toi, je te l'ai retenu. En plus, on s'est pas mis d'accord, mais je te l'ai trouvé à 15h le samedi, parce que c'est là, hein, ce week-end, pendant les journées du patrimoine. Vous remarquez que c'est un peu patrimoine quelque part. C'est découvrir les mystères des crânes de cristal de la légende maya avec Patrice Marty. C'est un salon. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent vendre quelque chose. Il faut jamais oublier ça. T'as beau mettre toutes les conférences du monde que tu veux, à côté de ça, il y a tout plein de stands où les gens trouvent une conférence, ou en tout cas un moment où ils vont blablater pour pouvoir vendre après leurs produits. Alors, il y a des gens qui sont mis en avant, hein, par exemple, alors attendez, parce que je vous ai pris tout un tas de notes, hein, donc quand même, il faut que je me les retrouve. On a donc, ils ont mis en avant, par exemple, quelques personnalités. Moi, je connais pas. Annabelle de Villedieu. Donc, je suis allée sur son site internet. Elle fait donc de la voyance. Ah, et alors, ce qui est bien, c'est que c'est un site années 90. Et t'as ici le numéro de portable. C'est-à-dire vraiment comme, tu sais, les petites choses qu'on peut poser sur une voiture que tu n'as pas. Mais si t'en avais une, tu saurais que ça se pose. Donc, elle fait même une conférence. Et à l'instant, hein, Annabelle de Villedieu.
Donc, ils ont même des trucs de la voyance, quoi.
Oui. Et puis, il y a quelqu'un aussi qui... ouais, mais il y en a plein des comme ça. Je veux dire, on va revenir sur le programme après. Il y a une star, hein, qui s'appelle Jacques Martel, qui est un Canadien qui aime les chez les rationalistes, comme moi, qu'on aime bien regarder ce genre de choses, il est connu, hein, Il est maître Reiki, praticien en reconnexion avec le petit C, tu sais, de brevet, enfin, de trucs qui voudraient faire croire que t'as déposé un brevet et tout. Et c'est ce petit, ces petits symboles, on les trouve beaucoup sur le programme ou sur le site internet, hein, qui donc.
Ça donne un pseudo raconte. Sérieux, quoi.
Bah non, mais ça veut dire surtout qu'ils ont un truc à te vendre. Donc lui, il a écrit tout un tas de bouquins, hein. Mais alors, quand je dis tout un tas, c'est tout un. Mais je me suis surtout intéressée à un personnage. Il y en a d'autres hein, qui sont là. Alors, on a le prince du Cameroun. Hein, tu savais pas qu'il y avait un prince au Cameroun qui
non,
vient.
C'est ça, oui.
Bon, lui, il vient parler un peu de la paix et de choses comme ça. Donc voilà. On a tout ce qui va concerner l'âme, beaucoup de coachs hein, aussi qui ont envie de nous raconter des choses. Et donc là, on met en parallèle après aussi d'autres intervenants. Et puis ces mouvements, je me suis demandé s'il y avait des anti-vaccins qui allaient tenir des stands et si on les trouvait quand même un peu aussi.
Des mouvements sectaires, il n'y a pas ça, parce que souvent dans ces trucs un peu irrationnels, de voyance, machin, il y a des fois quelques petits mouvements un peu sectaires qui se glissent.
Ouais,
dedans.
Du coup, je me suis intéressée à un personnage qui fait beaucoup parler de.
L'anthroposophie ou des trucs comme ça, toi.
Ouais, alors là, évidemment, on trouve des gens qui nous proposent quand même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je voulais vous lire une petite phrase, et puis après, je reviendrai sur le monsieur dont je vais vous parler, qui dit. Ah mince, elle est où? Elle est sur. Ah, voilà. Alors, attends, il faut que je grossisse, hein, pardon, hein, parce que c'est une version numérique. J'allais pas imprimer sur un papier.
Non.
Pour tuer un arbre, pour ça, hein, quand même. Les ateliers et conférences, je cite, hein, les ateliers et conférences se déroulent sous la responsabilité de leurs intervenants. L'ensemble des termes médecine, guérison, soins font uniquement référence à des appellations culturelles et traditionnelles et en aucun cas des appellations médicales. Ça, ça évite d'être attaqué. Je me suis donc attaqué. Mais je me suis attaqué dans ma recherche à un monsieur qui fait beaucoup parler de lui. Je suis sûr que. Vous en avez entendu parler pour certains et certaines d'entre vous. C'est Christian Talchaleur. Vous connaissez peut-être aussi sa femme. Alors, il a fait parler de lui beaucoup ces derniers temps, mais c'est aussi un monsieur qui fait parler de lui d'une manière générale. Il est marié à une femme aussi qui est chamane. Lui, donc, il est chamanisme. C'est un anti-vaccin. Et donc là, il va nous faire une conférence vendredi à 11h. Quel futur voulons-nous ? Point d'interrogation. Tous soumis, virgule, vaccinés et pucés ou tous responsables ? Point d'interrogation.
Parce que, quand, oui, c'est vrai, c'est la théorie que quand voilà. On est vacciné, on est.
Donc sinon, lui, il est pour l'urinothérapie. Alors, je vous rappelle que tu peux boire ton urine. Si t'es pas malade, ça va pas te faire grand chose.
Ouais,
par contre, alors en termes de, si tu veux, quand tu veux te soigner, il y a toujours le l'apport et le risque. Hein. Qu'est-ce que le bienfait puis le risque. Sur l'urine saine, ben voilà. Sur l'urine infectée, ça c'est un peu, on sait le risque. Par contre, sur le bienfait, pour l'instant, on n'a aucune étude très sérieuse quand même. Donc bon, tu peux la boire si ça te fait plaisir. Et puis il a été ce monsieur Christian Talchaleur très médiatisé à un moment parce que pour lui le sida est une maladie des pays occidentaux des drogués et en fait c'est une maladie qui n'existe pas vraiment.
Ah ouais, pourtant ça fait du mort hein, quand même.
En fait, Conspiracy Watch s'est beaucoup attaqué à lui hein, sur cette question du sida.
Oui, parce que alors,
et a beaucoup publié hein, sur contre Christian Talchaleur. Il est suisse, juste parce que je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais je vous raconte. Voilà. Donc, sur le Covid-19, sur le coronavirus, hein, donc sur le virus et sur la maladie, il explique que donc sur le virus, c'est un pseudo-virus qui n'existe pas, hein, puisqu'il a été créé, c'est cette belle théorie, par des gens qui veulent s'enrichir et que de toute façon, les vaccins, c'est bien connu, ça tue des millions de gens. Donc, le 6 septembre, il est allé se balader, il était à Chambéry, à l'appel du Sénat souverain de Savoie, déjà, pardon. Oula. Vous savez, c'est les gens qui estiment que la Savoie doit être libre et qu'ils ne reconnaissent pas donc l'autorité de l'État français. Parfaitement le droit. Hein. Donc c'est des anti-masques. Dimanche, ces anti-masques étaient donc devant le palais de justice de Chambéry. Thierry Bécourt, hein, le monsieur chef du Sénat souverain de Savoie, défend évidemment le monsieur Raoult. Je ne sais pas si on peut encore dire professeur. Christian Talchaleur était bien là. Il est monté sur l'estrade et il a affirmé, d'après le Dauphiné, hein, que je cite, qui était sur place, qu'il allait sortir un rapport incontestable prouvant que l'intérêt l'Institut Pasteur est à l'origine du virus.
Ça, oui, c'est une des théories qu'on spie là, comme quoi le virus aurait été fabriqué.
Voilà, et que donc le vaccin va contenir des nanoparticules qui agiront avec la 5G pour contrôler nos vies.
Ça c'est énorme.
Ça va très très loin.
Surtout qu'on ne sait pas faire. Vous méfiez-vous, la 5G, le vaccin, et en plus il y a des morceaux de Bill Gates dedans, faites gaffe.
Donc c'est un monsieur, vous voyez, qui est quand même assez passionnant. Donc le sida, un truc inventé pour les sociétés occidentales, pour des drogués de toute façon, qui n'existe pas vraiment. Un coronavirus qui n'existe pas, puisque c'est un truc créé par des gens qui veulent s'enrichir. Il s'attaque évidemment, ce monsieur, à Bill Gates, c'est trop tellement facile, que ça en est même épuisant, cette facilité.
C'est pas drôle, nous on l'aimait pas Bill Gates avant, arrêtez.
Non mais c'est une paresse intellectuelle, encore une fois, il faut un peu des fois inventer des choses un peu nouvelles, parce que bon, nous on s'ennuie à force de répéter toujours les mêmes bêtises. Donc, depuis le Covid-19, il s'organise avec les anti-vaccins, les anti-vax comme on les appelle, hein. Et donc il a fait une superbe vidéo sur YouTube, tellement magnifique, excusez-moi. Si vous allez la voir, il faut surtout penser à mettre un commentaire négatif dessous. Enfin, si vous n'êtes pas d'accord. Parce que juste aller la voir, ça veut dire qu'après, vous faites des vues. Et les gens utilisent ce principe. Donc, bon, après, on peut toujours critiquer. Mais voilà, les gens se servent aussi de ça. Donc, il a fait une vidéo quand même avec des gens absolument passionnants. Jean-Jacques Crèvecoeur, hein, alors ça, c'est aussi un monsieur absolument magnifique, anti-vaccin, qui se présente comme un accoucheur du potentiel humain. Vous savez, ce monsieur, c'est quand même pas mal. Hein. Oui, j'ai retrouvé ça dans un article. Dans cette vidéo, hein, donc ils expliquent que les vaccins vont tous nous tuer par milliers. Hein, donc du coup, des fois c'est par millions, des fois c'est par milliers, on sait plus bien. Il était aussi dans cette vidéo assis à côté de Silvano Trotta, qui est un monsieur qui nous vend des trucs autour du paranormal. Ouais, voilà. Et puis de Thierry Casanova, hein, qui est quand même surveillé, hein, par la Miviludes. Hein, donc
La mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Donc, belle équipe quand même pour cette vidéo et pour nous démontrer qu'il faut surtout pas se vacciner, que tout ça c'est du mensonge et qu'on se fait tous rouler dans la farine. Ce monsieur est donc invité là au Double Mix, c'est absolument scandaleux, parce que les autres, si vous voulez, viennent nous vendre du coach, du cristal, de la pierre et du merdoum, mais lui c'est quand même
plus dangereux.
Encore plus dangereux que tous les autres réunis, je pense. C'est scandaleux.
Voilà, et eh ben c'est 20h passées les 15 secondes, et nous sommes scandaleusement à la bourre.
Et voilà, et donc on est très très heureux de laisser la place à la petite cuillère qui fait son grand retour ce soir. On vous embrasse et on vous souhaite une bonne soirée, et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, bye ciao bye.